VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Abidjan, 19h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal politique en RDC. À deux jours du démarrage du dialogue national, Vital Kamerhe, leader de l'UPC, l'Union pour la Nation Congolaise, perd le numéro 2 de son parti, Jean-Bertrand Ewanga. Ce dernier député national vient de démissionner de ses fonctions de secrétaire général de l'UNP. L'UNC, pour cause de divergence avec son patron au sujet de la participation du parti au dialogue convoqué par le président Joseph Kabila. On écoute Jean-Bertrand Ewanga au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Ma présence au comité préparatoire m'a permis de conclure que l'opposition présente à ses travaux est prise au piège de la majorité, au point qu'elle n'a aucune autre issue sinon que de servir de caution au coup d'État constitutionnel en gestation à travers soit la révision constitutionnelle en gestation, soit le changement de la Constitution ou encore le référendum inopportun mais évoqué par certains caciques du pouvoir et dont le projet semble à portée de la main.
Jean-Bertrand Ewanga, député national de l'Union pour la Nation Congolaise, l'UNC, et ex-numéro 2 de ce parti. Au Gabon, les résultats provisoires de l'élection présidentielle de samedi doivent en principe être proclamés aujourd'hui. Jean Ping, principal candidat de l'opposition, a déjà revendiqué deux fois la victoire. Et dans le camp du président sortant, Ali Bongo Ondimba, on se dit confiant et optimiste. D'où la nervosité et l'inquiétude chez beaucoup de Gabonais qui craignent des violences. Le point avec Idriss Fall, notre envoyé spécial à Libreville.
Pacome Mubele Boubeya, ministre de l'Intérieur, doit annoncer aujourd'hui les résultats provisoires. La CENAP, la Commission électorale nationale autonome et permanente, aura peut-être fini de compiler les résultats de quelques 2580 bureaux de vote. Hier lundi, le principal candidat de l'opposition, Jean Ping, a réitéré qu'il était le seul vainqueur. Le président sortant, Ali Bongo Ondimba, s'est dit confiant et optimiste devant les observateurs internationaux. Mais cette nuit, il y a eu des contrôles policiers le long de la corniche. Les forces de l'ordre sont visibles sur le boulevard Triomphal, sur le rond-point de la démocratie, souvent théâtre de contestation. Il suffira simplement d'attendre pour voir quelle sera la suite de cette journée à haut risque. Depuis Libreville, Idriss Fall, la voix de l'Amérique.
Au Nigeria, un nouveau groupe armé a revendiqué aujourd'hui le sabotage dans la nuit de lundi à mardi d'un oléoduc appartenant à la Compagnie nationale pétrolière du Nigeria dans la région du delta du Niger. Et ce, à titre de représailles contre l'opération militaire lancée par l'armée nigériane pour mettre fin aux attaques d'installations pétrolières dans le sud du pays. Les rebelles des NDGJM, les Niger Delta Greenland Justice Mandep, groupe qui a vu le jour le 9 août, l'ont annoncé dans un communiqué. Ils ont également fait savoir qu'ils ne reconnaissaient pas le cessez-le-feu et les propositions de négociation avec le gouvernement fédéral annoncées par un groupe adverse, les Vengeurs du Delta du Niger, la semaine dernière. En Somalie, au moins 5 morts et près de 30 blessés dans un attentat suicide des islamistes Shebab. Aujourd'hui à Mogadiscio, la cible, un hôtel très fréquenté de la capitale à proximité du palais présidentiel. Eric Manirakiza.
Le véhicule piégé a d'abord forcé un premier checkpoint à quelques centaines de mètres de l'hôtel. Les forces de sécurité ont immédiatement riposté. L'explosion s'en est suivie, provoquant un énorme nuage de fumée et des flammes qui ont envahi le ciel de la capitale somalienne. Selon l'AFP, une partie de l'hôtel s'est effondrée et d'autres bâtiments situés à proximité ont été endommagés. Les islamistes Shebab, affiliés à Al-Qaïda, ont aussitôt revendiqué l'attentat, le troisième en 18 mois contre le même hôtel. Celui-ci est situé non loin de l'enceinte ultra-sécurisée de la Villa Somalia, complexe fortifié qui abrite la présidence somalienne et les bureaux du Premier ministre. D'ici quelques semaines, le pays doit organiser des élections au suffrage indirect, dont la présidentielle le 30 octobre, mais les attentats qui se multiplient représentent une menace réelle sur ce processus.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Crise migratoire, les gardes-côtes italiens qui ont coordonné hier le secours d'environ 6500 migrants au large de la Libye redoutent une nouvelle affluence record aujourd'hui dans cette zone de la Méditerranée. Le dernier bilan du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, le HCR, faisait état d'environ 105 000 arrivées en Italie en fin de semaine dernière. La quasi-totalité de ces migrants viennent d'Afrique de l'Ouest ou de la Corne de l'Afrique. Et la nouvelle route migratoire vers l'Europe passe par la Libye, un pays en plein chaos. Pour une analyse, Jacques Aristide a joint Florence Kim, porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM.
Il est important de revenir sur ce chiffre. Donc effectivement, il y a eu plus de 6800 personnes qui ont été secourues dans les dernières 24 heures grâce à plus de 35 opérations en cours en Méditerranée. Il n'y a pas uniquement la marine italienne ni les gardes-côtes, il y a également d'autres navires militaires, mais également des bateaux d'ONG. Donc ça, c'est important de le rappeler, ils ont fait un travail impressionnant et il faut les saluer. Donc en revanche, c'est vrai que c'est un chiffre qui peut paraître impressionnant, mais qui ne doit pas pour autant alarmer. Les chiffres d'ailleurs de l'année dernière peuvent le prouver. À la même période, on était à un peu plus de 116 000 arrivées en Italie contre 111 000 cette année. Donc on voit très bien, la tendance est tout à fait stable.
Mais en même temps, d'après le HCR, au moins 3100 migrants sont morts ou disparus en mer Méditerranée cette année en tentant de gagner l'Europe.
Oui, tout à fait. On compte plus de 3150 morts depuis le 1er janvier de cette année. Il faut rappeler également qu'il y a eu des naufrages tragiques à la fin du mois de mai qui ont causé en quelques jours uniquement la mort de plus de 1000 personnes. Ce qui a fait que ça a augmenté les statistiques de cette année, effectivement.
C'est donc vers la Libye que converge maintenant l'essentiel de l'immigration clandestine africaine après le renforcement des contrôles de la route migratoire ailleurs. La Libye, où pourtant le danger que représentent les milices armées bien présents, est-elle redevenue la plaque tournante du trafic de migrants africains ?
Écoutez, la Libye, de toute façon, depuis des années maintenant, 4 ou 5 ans, a toujours été le point de départ ou le point de départ principal des migrants qui arrivent en Italie aujourd'hui. Plus de 90% de ceux qui sont secourus en mer Méditerranée sont partis de la Libye, qui, à cause de la situation politique qu'on connaît ou du chaos auquel elle fait face, est devenue une véritable passoire.
Et cette crise va se poursuivre comme cela ?
Écoutez, tant que les conditions ou les raisons principales de départ des gens dans leur pays d'origine ne sont pas résolues, effectivement, il n'y a pas de raison de penser que les flux vont baisser. En revanche, il n'y a pas non plus de raison de penser que ça va augmenter. Ce sont les chiffres encore qui parlent.
Florence Kim, porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. Elle était en ligne de Genève, en Suisse. En Syrie, accord pour l'arrêt des hostilités entre les forces turques et les milices kurdes, deux alliés de Washington dans le combat contre le groupe État islamique, mais opposés sur le terrain. Les deux camps se sont entendus pour qu'il n'y ait pas d'affrontement pendant les deux prochains jours, pendant qu'ils continuent leurs discussions, Eddie Sango.
Le colonel John Thomas, porte-parole du CENTCOM, les commandements militaires américains au Moyen-Orient, affirme avoir reçu l'assurance que toutes les parties impliquées vont arrêter de se tirer dessus et se concentrer sur la menace du groupe État islamique. Le colonel Thomas dit espérer que l'accord de principe pour deux jours sans affrontement pourra se consolider par la suite. Washington cherche à éviter un embrasement des combats entre les forces turques et les milices kurdes syriennes depuis le lancement la semaine dernière d'une opération militaire turque dans le nord de la Syrie. Le président Barack Obama doit rencontrer dimanche son homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour évoquer la situation en Syrie en marge d'un sommet du G20 en Chine. L'opération bouclier de l'Euphrate, lancée par la Syrie mercredi, visait à la fois les combattants kurdes et les djihadistes du groupe État islamique. Ankara considère les milices kurdes YPG, unité de protection du peuple kurde, comme une organisation terroriste. Il veut éviter que les Kurdes syriens ne forment une frontière continue le long de sa frontière avec la Syrie.
Et toujours concernant la Syrie, l'administration Obama a atteint l'objectif qu'elle s'était fixé d'accueillir 10 000 réfugiés syriens d'ici à la fin de l'exercice fiscal en cours, avec un mois d'avance sur la date prévue. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la Maison-Blanche. L'année fiscale américaine, l'année budgétaire donc, se termine fin septembre. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.